dans la rédaction, on les a revus.
Nous restons un peu autour des mêmes problématiques, souvent peut-être plus philosophiques avec vous, Dany Robert Dufour, professeur à Paris 8, directeur de programme au Collège international de philosophie. Nous parlons de votre dernier livre publié chez De Noël, intitulé « L'art de réduire les têtes », sous-titré « La nouvelle servitude de l'homme libéré à l'ère du capitalisme total ». Alors votre thèse est forte, mais très argumentée. Nous croyons, dites-vous, être sortis du XXe siècle et de ses totalitarismes, mais en fait, il n'est pas impossible qu'une nouvelle catastrophe se profile à l'horizon, produite cette fois donc par l'idéologie néolibérale, laquelle serait en train de vouloir, elle aussi, fabriquer cet homme nouveau, déchu de sa faculté de jugement, poussé à jouir sans entrave, cessant de se référer à toute valeur absolue ou transcendantale, bref, ayant la tête littéralement rétrécie par le système qui se met en place. Alors, vous pouvez d'abord peut-être quels sont les signes objectifs qui vous poussent à faire un diagnostic aussi pessimiste.
Parmi les signes qui peuvent marquer cette mutation, je pense qu'il y a de l'apparition d'un certain nombre de nouveaux symptômes, ce qu'on appelle à tort ou à raison de nouveaux symptômes, qui désarçonnent d'ailleurs beaucoup les gens qui se penchent au chevet de ceux qui viennent les voir, à savoir par exemple les psychanalystes, qui voient apparaître donc des formes qui ne répondent plus exactement à la définition classique de la névrose, mais qui ont à voir avec, par exemple, la dépression. On a noté la très forte ampleur du phénomène de la dépression, les phénomènes d'hyper-infatuation, les phénomènes d'hyper-violence, les phénomènes d'addiction, d'addiction à la drogue, par exemple, les phénomènes d'anorexie ou de boulimie qui se caractérisent tous par des difficultés d'intégration de la limite. Hein. Et je crois que là, on a affaire, pour compléter le tableau, à l'ensemble des signes qui sont très manifestes dans notre société, qui marquent donc cette mutation qui touche aussi bien le corps des individus. Simplement, ce que j'essaie de donner, c'est une vision un peu organisée de ce malaise, pour reprendre le terme freudien, de malaise dans la civilisation. Donc il y aurait une sorte de malaise dans la civilisation que nous vivons et qui s'apprécie particulièrement à partir d'un certain nombre de crises, notamment de crises des grandes institutions. On peut parler de la crise des institutions politiques, par exemple, où nous avons affaire à un politique qui est devenu un politique purement gestionnaire. Autre crise, celle de l'école, qui est massive, parce que l'école maintenant est traversée par toute une série de phénomènes que l'on connaît bien, les phénomènes de la violence, de l'incivilité, et je crois que ceci constitue un élément de crise considérable.
On va peut-être rester sur ce point, peut-être sur l'école, puisque nous y sommes. L'un de vos chapitres, l'un des chapitres de votre livre s'intitule « Le mot zapiens à l'école », c'est-à-dire l'homme qui zapperait en permanence, et le sous-titre c'est « Le déni de la différence générationnelle ». Concrètement, de quoi s'agit-il?
Écoutez, le mot zapiens, c'est celui que l'on trouve à l'école maintenant, parce que la plupart du temps maintenant, ou très souvent, dans des cas très nombreux, le petit d'homme apprend à parler, non pas avec ses parents ou son entourage, mais en étant placé devant le poste de télévision, où les statistiques de consommation de la télévision dès le plus jeune âge sont considérables.
Conséquences pour l'école?
Conséquences immédiates pour l'école. L'école est un discours extraordinairement exigeant, un lieu du discours particulièrement exigeant, puisque c'est le lieu où la génération précédente s'adresse à la génération suivante. Et donc, pour ça, il faut évidemment rentrer dans le fil du discours. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intitulé ou qui porte la charge ou la fonction d'instituteur ou de professeur, interpelle l'autre en tant qu'élève, qui de cette place lui répond, et qui peut d'ailleurs être dans une position critique par rapport à ce qu'il entend. Si ces places-là ne sont plus celles qui, de celui qui parle et de celui qui répond, ne sont plus sensibles pour le nouveau arrivant, celui que nous avons appelé le homo sapiens tout à l'heure, alors simplement, le fonctionnement générationnel ne peut plus se produire.
Déni de la différence générationnelle, autre déni, celui de la section, comme ça vous appelez. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un peu la fin aussi de la différence entre les sexes?
Je crois que nous avons affaire dans nos sociétés à ce qu'on pourrait appeler un déni de la différence sexuelle qui se marque dans un certain nombre de manifestations, par exemple dans les tentatives ou la promotion de ce qu'on pourrait appeler un unisexe.
Ça se voit où, par exemple, ça, sur les affiches?
Ah, ben, ça, écoutez, j'avais relevé dans le journal Le Monde en 2003 que nous avions eu 540 ou 530 émissions de télévision au cours de l'année précédente, à la télévision française, qui invitaient les individus à dire leur choix sexuel et qui les invitaient à se prononcer sur le droit, ce qu'on pourrait appeler un droit au choix du sexe, ce qui est quand même complètement extravagant, parce que le sexe, on ne le choisit pas, on tombe dedans, on est content ou pas content, on se débrouille avec comme on peut très bien, si on est homme, se croire femme, ça c'est aucun problème à ça, mais en tout cas, on ne peut pas changer de sexe, parce que, tout simplement, il y a une détermination génétique qui fait qu'on est tombé d'un côté ou de l'autre, en s'arrangeant, encore une fois, comme on peut avec cette détermination.
D'où le déni.
D'où le déni. Alors, bon, la différence maintenant, c'est que on prétend pouvoir changer de sexe. On peut changer de genre, peut-être. Mais on ne change pas de sexe, parce que le sexe est une donnée naturelle. Et je crois que notre société s'amuse beaucoup, enfin s'amuse, en tout cas, elle tente de s'amuser avec ceci, mais elle souffre aussi beaucoup de vouloir dépasser ce qui apparaît bien comme des impossibles. C'est-à-dire l'impossible de changer de sexe, parce que quand on est dans l'un, on n'est pas dans l'autre, l'impossible d'appartenir à deux générations différentes en même temps, et je crois que notre époque est une époque qui s'amuse à se faire peur et qui réussit à se faire peur en disant qu'elle va pouvoir s'affranchir de ces grands impossibles qui instituent l'humanité. En quelque chose, tout est devenu possible, en quelque sorte, maintenant.
Il y a un mot central dans votre livre, c'est celui de désymbolisation. Est-ce que ça serait vraiment le symptôme de notre rétrécissement cérébral et pourquoi ?
Mais écoutez, oui, parce que un système symbolique, c'est un système qui est garanti par un certain nombre de grandes valeurs, qui sont des valeurs transcendantes, ou transcendantales, ou morales. Ou, par exemple, on disait que pour que les deux discours s'organisent, il faut que nous partagions au moins les idées qui sont les idées globales de la raison. C'est-à-dire pas produire d'argumentation contradictoire. Il faut quelque chose d'extérieur. Or, le problème, c'est que dans cette société de marché, plus aucune valeur extérieure n'est acceptée. Ce qui n'est accepté, ce n'est que la valeur des choses qui s'échangent. On avait, si vous me permettez, une très très belle phrase de Kant qui disait ceci. Il disait, tout a ou bien un prix ou bien une dignité. On peut remplacer ce qui a un prix par son équivalent. En revanche, ce qui n'a pas de prix, et donc pas d'équivalent, c'est ce qui possède une dignité. Donc il fallait s'organiser en fonction de la dignité qui, elle, n'a pas de prix. Or maintenant, il faut s'organiser en fonction simplement des choses qui s'échangent et donc qui peuvent toujours se remplacer. Cette belle citation est tirée, pour ceux que ça intéresse, du fondement de la métaphysique des mœurs.
Vous parlez de véritable mutation anthropologique.
Oui.
Ça nous donne quoi comme genre de mouvement ?
Je crois qu'il y a mutation parce que tout simplement notre façon d'être soi et d'être ensemble est en train de changer avec la disparition dans nos grandes économies humaines, c'est-à-dire dans l'économie symbolique, dans l'économie marchande, dans l'économie psychique, dans l'économie politique, d'un certain nombre de grands principes qui organisaient tous ces échanges. Donc à partir du moment où ceci n'est plus en cours, il n'y a plus qu'une flottaison généralisée des valeurs marchandes au gré de l'échange. Et c'est ceci que j'appelle une véritable désymbolisation, parce que ça produit des sujets tout simplement qu'on pourrait appeler des sujets flexibles. Flexibles dans leur identité, flexibles dans leur sexuation, et qui ne sont plus donc accordés à ces valeurs qui sont le produit, au fond, de ce qu'une société peut produire comme ce sur quoi on peut s'entendre. Et je crois que, Dieu merci, on produit un nouveau sujet peut-être acritique et peut-être flexible, mais Dieu merci, cela résiste. Et j'espère que la résistance peut s'amplifier.
Merci, Denis Robert Dufour. Je rappelle donc le titre de votre livre, L'art de réduire les têtes ou la nouvelle servitude de l'homme libéré à l'ère du capitalisme total, publié chez De Noël. C'est la fin de cette émission.